Bonjour, j'appelle de Belgique. Auditrice assidue d'Inter depuis 10 ans, je souhaite réagir à propos du 7-9 de ce lundi. Je déplore le manque de clairvoyance et de bon sens des intervenants masqués. Leur attitude dictée par des fins publicitaires et une chasse aux sorcières empreinte de démagogie est doublement écœurante. D'une part, à l'égard de Yacine Zéouane, qui par son action en faveur des droits de l'homme aurait eu beaucoup à nous apprendre et mérite le respect de tous. D'autre part, à l'égard d'Inter. Amis français, vous avez la chance d'avoir une radio de service public qui offre encore et pour combien de temps de réels espaces de liberté et de remise en question. Daniel Mermet et son équipe, Didier Porte, Philippe Valls, Zoé Varier et tous les autres. Vous interpellez, vous démasquez, vous dénoncez, vous écoutez, vous suscitez les débats contradictoires, vous nous apportez des éclairages nouveaux. Amis auditeurs, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Car si toutes ces émissions ne sont pas égalité en termes de décapage, toutes ont leur raison d'être. C'est aussi une question d'équilibre et de bon sens. Le service public est un service financé par l'État. Merci à tous les animateurs d'Inter pour leur travail de qualité et à Monsieur Paoli pour son rafraîchissant coup de gueule.
Un petit message pour exprimer ma totale solidarité avec Stéphane Paoli, qui s'est emporté à juste titre ce matin contre de véritables fossoyeurs de la démocratie libérale. Jugez plutôt des auditeurs détournant un sujet d'importance capitale sur la grande liberté d'expression en Algérie. On ne rit pas dans les rangs, merci. Pour parler de sujets qui n'intéressent qu'à peine les trois quarts des Français, à savoir la mise sous tutelle des marchands d'armes de tous les médias de ce pays, et de surcroît accompagné d'une intolérable promotion d'un journal odieusement intègre et indépendant, j'ai nommé le plan B. C'est vrai quoi, on vous donne la parole à vous les gueux, sachez au moins l'utiliser sur les sujets qu'il faut. La question de la laïcité en France, dont seule une infime majorité de Français se fiche comme guinguin, ou que sais-je, la couleur des cravates de Nicolas S. La démocratie, c'est avoir le choix, alors sachez faire le bon. Celui que les nantis et leurs petites mains journalistiques vous enfoncent au burin, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cessez donc de vous informer et de réfléchir, ils le font pour vous. Vous faites le jeu de Le Pen. Allez, continuez de nous faire rire, Paoli. Salut.
J'étais catastrophé par l'opération anti-Stéphane Paoli de ce matin. Le monsieur des droits de l'homme en Algérie, qui ne peut pas s'exprimer librement là-bas, s'est retrouvé comme censuré en France, alors que sur France Inter, est beaucoup écouté en Algérie. C'est désespérant d'égoïsme et de sectarisme. En plus, à France Inter, tous les soirs, de 5 à 6, on peut s'exprimer dans le monde alternatif. Pourquoi nos troublions anonymes ne vont-ils pas perturber Morandini et les radios commerciales, qui sont bien plus écoutées que Radio France? Radio France qui en partie a fait grève contre le CPE. Les radios commerciales l'ont pas fait. En plus, Stéphane Paoli est un vrai professionnel. J'espère que tu le défendras. On dit qu'il fait des ménages. La belle affaire. Est-ce qu'on reproche à ceux qui travaillent chez Dassault ou Jet de fabriquer des armes et de ne pas démissionner? Ce serait bon d'atterrir de temps en temps. Allez, à tout à l'heure.
Le problème, c'est que c'était pas le jour de faire ça. Et les trois auditeurs qui ont fait ça hier matin... c'est des cons parce qu'il fallait pas faire ça ce jour-là. Mais quitte quant à avancer masqué, je vois pas comment on peut faire autrement qu'avancer masqué. Moi, je mets au défi n'importe quel auditeur le matin d'appeler alors que le sujet c'est la vache folle, la grippe aviaire ou le CPE et de dire non, moi j'aurais une question, je voudrais parler à monsieur Paoli, je voudrais lui dire que le 7-9, ceci, cela, jamais on le passera à l'antenne, jamais. Alors ce que moi je suggère à monsieur Paoli, pour lequel d'ailleurs j'ai plutôt de la sympathie, mais si vraiment l'antenne est libre, qu'il affiche cette liberté et qu'il consacre deux fois par mois, allez, même, disons, une fois par mois, ce petit quart d'heure de liberté qu'auraient soi-disant les auditeurs pour parler de son 7-9. Chiche, allez, salut.
La tranche du 7-9 n'appartient pas à Stéphane Paoli, mais au moins certains réussissent à forcer le barrage. Ce qui n'est pas le cas là-bas si j'y suis, qui bénéficie d'un vrai filtrage. Et c'est bien pour ça qu'on entend que la clique d'extrême gauche qui bave sur le répondeur. À bon entendeur, salut.
Madame, monsieur, agir ne s'improvise pas, une vie non plus. Chaque jour permet à chacun d'être un peu plus près de son avenir. Et quel avenir? Des rêves froissés, des envies fragiles et une conviction. Nous ne voulons pas nous épanouir dans les études pour faner aussitôt dans la vie active. Pour le citer, le CPE est un contrat qui ne nous convient pas à nous, étudiants, lycéens et bien d'autres. Vous aussi sans doute. Parle de ce contrat, nous y sommes prêts depuis le début des manifestations. Mais celles-ci ne nous ont pas permis d'en discuter avec vous, qui êtes peut-être pour, ni avec le gouvernement, qui est resté sourd. Aujourd'hui, nous, lycéens, étudiants et bien d'autres, disons stop. Nous voulons nous faire écouter du gouvernement, mais aussi de vous. C'est pourquoi, à travers le blocus des universités, des lycées d'Arras, mais aussi du Nord-Pas-de-Calais, et au-delà de la France entière, nous espérons vous arrêter sur ce qui nous préoccupe. Et ça marche. De plus en plus de gens sont présents à nos AG. nous les avons obligés à s'arrêter et à réfléchir. Nous bloquons le lycée aujourd'hui, mais nous ne détruisons pas leur avenir. Nous y travaillons afin de le rendre meilleur. Madame, monsieur, que voulez-vous pour vous ou vos enfants? L'école est un droit, voter en est un aussi. Le blocus a été décidé par le vote. Quel vote a décidé du CPE? Parce que nous ne sommes pas des révolutionnaires, mais juste des jeunes qui veulent réussir à se construire un avenir.
Voilà, les messages sur le répondeur de la base, et j'y suis. Beaucoup de messages sur l'événement de France Inter. Vous voyez, on n'a même plus besoin d'événements extérieurs, nous on les fait à l'intérieur de notre maison. Et ça vous intéresse visiblement, plein d'avis d'un côté, de l'autre, au milieu, etc. Aujourd'hui, nous on continue le voyage, je dis pas la balade, parce qu'aujourd'hui ça va pas vraiment être une balade, en Inde, dans le Gujarat, ces rives où le Clémenceau n'est pas venu à Alang, et on va voir un peu les conséquences de cette absence de Clémenceau avec les travailleurs, avec les shipbreakers, c'est-à-dire avec les patrons, et le climat qui règne dans ce petit endroit pas trop sympathique du monde, mais qui est plein d'enseignements pour nous qui, en majorité, nous sommes réjouis de ce refus, de ce retour. Alors, on s'en est réjouis, non, bon, bien sûr, voilà, c'est un truc stupide et catastrophique, évidemment, d'un côté, mais d'un autre côté, victoire écologique, etc., etc. On va voir si c'en est vraiment une, en tout cas, sur place, là-bas, à Alang. C'est tout de suite dans la base, si j'y suis. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous voulez voir quelques images de ces reportages, aller sur le site laba.org, la-ba.org, et vous pouvez voir une série de photos faites au cours de ce reportage. Comment meurent les navires et qui coule ma chemise, juste après le bouquet de messages que voici, que vous avez laissé joliment dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 0156 40 37 37.
Chers auditeurs de là-bas, si j'y suis, vous vous demandez peut-être pourquoi M. de Villepin ne souhaite pas faire marche arrière en supprimant purement et simplement le projet de loi sur l'égalité des chances dont fait partie le CPE. Pourquoi ce gouvernement est-il aujourd'hui si arrogant, si cynique dans sa démarche? En voici la réponse. Maître mot, aujourd'hui, il faut déréguler, c'est-à-dire supprimer l'État organisateur et arbitre en amont pour laisser le marché s'autoréguler. Bref, laisser le champ libre au plus fort pour laisser l'État se concentrer sur ses positions régaliennes. Justice, police, armée. Voilà pourquoi aujourd'hui, à ce titre, on privatise tous les secteurs publics marchands, c'est-à-dire rentables. Aujourd'hui, l'État, donc les contribuables, subventionne la construction d'autoroutes pour ensuite abandonner au privé tout l'actif de la société afin de laisser aux actionnaires en situation de monopole le privilège de ramasser des dividendes. Idem pour la Poste. On parle d'une privatisation pour 2009 avec des bonnes idées libérales. Ainsi, on va voir apparaître des relais postes dans des épiceries ou autres commerces, des restaurants, des bars. Sur une base de modernisation des services postaux, il a été voté une loi, celle du 20 mai 2005, définissant, ouvrez les guillemets, le service universel et introduit des innovations quant à la présence postale, définissant une norme d'accessibilité, c'est-à-dire moins de 10% de la population de chaque département doit être située à plus de 5 km. Et donc, cette population se module en fonction des caractéristiques des zones concernées.
En raison de restrictions budgétaires, il n'y aura plus d'infirmière au collège Le Bocage de Dinard en fin de semaine. Des parents, d'élèves et personnels se sont mobilisés lundi soir pour s'interroger sur les moyens de faire comprendre à une administration aveugle le rôle que peut avoir une infirmière dans un lieu où sont rassemblés plus de 600 adolescents. Une telle décision aura des répercussions sur le suivi médical et psychologique de tous les enfants du canton, bien évidemment. En effet, les infirmières scolaires agissent aussi au niveau des écoles primaires, publiques et privées. Nous appelons toutes les personnes responsables du canton pour agir avec eux et faire reculer cette logique purement économique. En signant la pétition lancée et en venant nous rejoindre pour les actions en cours ou à venir. Faites-nous part de votre expérience ou de votre soutien à l'adresse suivante, plus d'infirmières, @wanadoo.fr, plus d'infirmières en un mot et sans apostrophe, plus d'infirmières @wanadoo.fr. C'était Jean-Luc de Dinard, en Ille-et-Vilaine.
Jean-Pierre, du repère des amis de là-bas, si j'y suis, le bar Le Manon à Saint-Robert, dans la belle ville de Saint-Égrève, dans l'agglomération grenobloise. Donc c'est juste pour annoncer que ce soir, nous nous réunissons une fois encore, donc au bar Le Manon, 20h45, rue Saint-Robert, à Saint-Égrève. On est toujours dans la logique des comités de l'après 29 mai, l'après vote du non. On est toujours dans cette démarche d'essayer de fédérer quelque chose de façon à pouvoir faire avancer les choses, entre autres pour 2007. Donc ça, c'est le sujet que on a l'intention d'aborder, mais tous les débats sont ouverts. Voilà, donc rendez-vous ce soir au bar Le Manon, 20h45. Bonne journée à tous, merci.
On se retrouve mardi 14 mars à 19h, toujours au bar La Pipe. Et c'est pas les sujets qui manquent, puisqu'il y aura sûrement au programme le contrat pour l'esclavage. On a aussi un projet suite à vos sujets sur les sujets de vidéosurveillance des salariés de Carrefour, de monter une projection de 1984 et aussi d'une vidéo sur Walmart. Voilà, demain 14 mars, 19h. Allez, au revoir, ciao.
À la boutique du barbier, là. Il y a trois gars qui sont en train de se faire raser. Des vieux fauteuils de... Ah, ça, c'est formidable. Poum, 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 poum. C'est des gros, gros triporteurs, énormes triporteurs. Poum, 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 poum. Et là, dans toute la région, multicolores, peinture murée, clinquant, clignotant de partout. Énorme moteur... Et il reste juste la roue avant de la moto et tout l'arrière s'est transformé en triporteur énorme. Et on transporte là-dedans toutes sortes de camelotes, des gens, des grappes humaines qui s'agrippent et puis roule ma poule, ça fonce à tout berzingue. Magnifique ces trucs. Mais c'est très bien organisé, on voit ça à l'entrée des villes ici dans le coin. Je sais pas si c'est dans le reste du pays comme ça. Et ils font du transport. De toute façon, là, il y a un petit téléphone pour téléphone portable. Ils vendent des cartes. Et sinon, tout au long de cette route, c'est des chantiers qui vendent des bouts de bateaux. Tout ce qu'on peut trouver à bord des bateaux, tout ce qui a été récupéré. Et puis, des lits, des portes, des lavabos. Des canapés, des machines, des phares, des fils, tout ce qu'on peut récupérer est vendu après dans des petits chantiers. Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben, si j'y suis avec Guy Vanctil, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise. Voilà, enfin nous voilà à Langres. On en a vraiment bavé pour arriver jusque-là. Et encore, c'est très très précaire. On s'est arrêté juste 2 minutes de cette petite hauteur d'où on peut voir le chantier d'Alang. Et effectivement, on voit d'énormes navires. On en voit un, on en voit deux, on en voit trois, quelques autres là-bas, qui sont en cours de désossage. Alors on voit quelques grues, des grues pas énormes, des petites grues, et on aperçoit le chantier de destruction et démolition. Mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est les difficultés pour arriver jusque-là, pour même ce point de vue qu'on voit là, c'est gardé, il y a des flics partout qui pourchassent les journalistes, qui les menacent, et tout le monde a peur, tout le monde craint, il y a un climat très de méfiance, de tension, de trouille. Nous, on veut simplement savoir quelles sont les conséquences du retour du Clémenceau, enfin de l'absence de Clémenceau ici, puisqu'on est devant l'endroit où le Clémenceau ne viendra pas, quoi, finalement. Jeudi voilà. Jeudi voilà. C'est le chant des jeudi voilà que vous entendez. Imaginez une énorme plaque d'acier de plusieurs tonnes, qui pèse plusieurs tonnes, et qui vient de tomber d'un navire. Elle a été découpée dans une épave de navire, une épave qui mesure peut-être 70 mètres de haut, jusqu'à 80 mètres de haut parfois, et qui peut mesurer 100, 150 mètres, 200 mètres de long, et qui est là, échouée sur la plage, sur le sable. Et à l'intérieur de cette épave, des gars avec des chalumeaux, de l'intérieur, découpent ces plaques d'acier symétriquement. Il faut que ce soit découpé symétriquement. Sinon, vous avez compris, l'épave basculerait d'un côté ou de l'autre. Et quand c'est découpé, la plaque tombe dans un bruit épouvantable. Et ensuite, il faut la soulever et il faut la porter. Le plus souvent, parfois les soulever avec une grue, mais parfois ce sont les hommes qui la portent, qui la soulèvent même. Ils sont 10, 15, 20, et en rythme, ils soulèvent cette plaque, et en rythme, ils, d'un pied sur l'autre, ils chantent cette chanson. Jeudi voilà, donc. Sauf que ceux que vous entendez là sont les porteurs de plaques du Bangladesh. Là où nous sommes en Inde, nous sommes dans l'état du Gujarat, c'est-à-dire l'état le plus à l'ouest de l'Inde. Nous sommes venus de Delhi jusqu'à Ahmedabad, la capitale du Gujarat. Et puis ensuite, nous avons pris une voiture, 5 heures de voiture jusqu'à Bhavnagar, une ville importante et très animée du Gujarat. Et de là, à nouveau, une autre voiture, il fait très très chaud à Bhavnagar, pour arriver jusqu'à Alang. Et là, on peut dire qu'on n'est pas bienvenu. Déjà à Bhavnagar, en arrivant, on a vu des grandes panneaux disant « Greenpeace, go home, Greenpeace, go back ». Évidemment, on n'est pas de Greenpeace, mais on a senti que s'était passé quelque chose là. Il s'est passé, vous le savez, tout le monde le sait, c'est que le Clémenceau n'est pas venu. Là où on se réjouissait en France, là où on se réjouissait à Delhi, les associations Greenpeace India et beaucoup d'autres de ONG hostiles à l'arrivée du Clémenceau avec son amiante, eh bien sur place, ça fait plaisir à personne, mais à personne. Pourquoi ? Pour des raisons évidentes, c'est que cette ville de Bhavnagar, en grande partie, vit grâce à la destruction des navires. C'est une activité qui dure depuis 1983. L'activité est un peu en déclin, et donc le Clémenceau était attendu comme le Messie. Or, le Clémenceau est reparti. On sait pourquoi, il y a eu cette polémique sur la quantité d'amiante contenue dans le Clémenceau. Le gouvernement français en avait fait retirer une partie, il en restait, combien il en restait. Pour les gens du coin, c'est incompréhensible, ça, parce que depuis 1983, toutes les épaves qui arrivent là et qui sont démantelées à Alang sont bourrées d'amiante. Et l'amiante ne pose aucun problème à l'Inde. On verra pourquoi au cours de ce reportage. Mais surtout, avant l'amiante, la question, elle est le travail. L'activité dans cette région autour de la destruction des navires concerne 200 000 personnes. 200 000 personnes au moins qui, on dit beaucoup plus, parce qu'avec toutes les retombées, effectivement, c'est beaucoup plus que ça. Donc, C'est ça le plus urgent, c'est le travail. Et c'est un travail qui est dominé par ce qu'on appelle les chic breakers, c'est-à-dire les patrons de ces chantiers. C'est une série de chantiers qui est comme ça au bord de la mer et qui sont, on va le voir, des patrons, des vrais patrons. C'est pas comme nos patrons à nous qui sont mous et qui sont obligés d'affronter les syndicats. Là, c'est des vrais patrons, des vrais durs, avec des vrais ouvriers, c'est-à-dire qui n'ont aucun syndicat, aucune défense, aucun droit, et qui sont corvéables et utilisables à merci. C'est dans cet univers qu'on va jusqu'à 18h dans La Basse et J'y suis. Le Clémenceau ne vient pas, qu'est-ce que ça représente comme conséquence pour vous?
Ça va avoir un grand effet sur notre business.
C'est-à-dire?
Parce qu'il y a une vingtaine de bateaux qui attendent et qui ne vont plus venir. Parce que Greenpeace va faire la même chose pour les autres bateaux aussi.
Mais pourquoi? Alors, toi, les arguments de Greenpeace, ce que dit Greenpeace, toi, tu ne veux pas en entendre parler? Ou bien il y a quand même des choses qui sont un peu vraies là-dedans, sur les conditions de travail, les risques, les dangers, l'amiante, etc.
C'est n'importe quoi. Oui, c'est vraiment n'importe quoi.
Pourtant, on sait que les conditions de travail sont très difficiles quand même.
Ce que dit le Greenpeace, ce n'est pas la vérité. Et puis après, s'il n'y a pas de bateau, ils n'auront pas de travail.
Ouais. Pour toi, le travail passe avant la sécurité.
Oui, il faut faire attention à la sécurité, mais il faut d'abord avoir du travail.
Il faut d'abord avoir du travail, bien sûr. Celui qui parle, c'est un shipbreaker, donc un de ses patrons. Alors, il faut comprendre qu'il y a ces navires qui sont démantelés sur la grève, mais ensuite, il y a toute une activité qui suit. C'est-à-dire, ça va du laminage jusqu'à la récupération de tout ce qui peut être à bord d'un navire. Ces shipbreakers qui sont organisés, ils ont une association qui ressemble plus à une mafia, disons, qu'autre chose. Ils sont soutenus par les autorités régionales de l'État du Gujarat. Il faut rappeler que c'est le BJP, ce parti nationaliste hindouiste qui est au pouvoir. Voir au Gujarat et qui les soutient, tout ça se fait quand même sur le dos de ces travailleurs que nous essayons de rencontrer. Nous ne sommes pas les premiers. Des équipes de télé, des journalistes ont essayé avant nous, mais l'endroit, la place est très 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 bien gardée. La police veille, il y a des checkpoints un peu partout et l'attention est très très grande. Nous ne sommes pas les bienvenus. C'est pas la transparence qui est le trait dominant de cet endroit. Il y a donc des choses à cacher. Ce qui est intéressant, c'est que pour que le Clémenceau soit dirigé vers ce chantier de démolition, l'un de ces chantiers de démolition, il a fallu que les autorités françaises négocient avec ces shipbreakers, qui négocient non seulement les questions d'environnement, d'amiante et beaucoup d'autres questions d'environnement sur les éléments toxiques qui sont à bord de ces navires et qui sont évidemment aussi à bord du Clémenceau contenu dans cette épave, mais aussi les conditions sociales, les conditions de travail, les conditions de salaire. Le salaire s'échelonnant entre 1,5 $ et 3 $ par jour pour les plus qualifiés. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils peuvent espérer 3 $ par jour pour de 12 à 15 heures de travail par jour. Il a donc fallu que les autorités françaises, représentants du gouvernement français, négocient tout cela en pleine connaissance de cause. Ça laisse un tout petit peu rêveur. Donc là, on est avec ce shipbreaker qui essaye de nous mentir tant qu'il peut, et ça marche pas trop mal. Mais toi, tu trouves que les conditions de travail ici sont acceptables?
Oui. Ouais. Alors, working je sais, tu es labour, nous, ça roule, c'est. Mais si ship non lagé, toi, bon, tu es venu, c'est que tu es bon, c'est.
Je pense que les conditions sont bonnes, mais s'il n'y a pas de bateau, il n'y aura pas de travail.
Combien gagne un ouvrier ici?
Oui, le co, rouge par hoi, c'est. 80 rupias, c'est là, il n'est 120 rupias, c'est du nous, rouge hoi, c'est le co.
De 80 à 120 rupies par jour.
80 à 120 rupies par jour. 1,50 €.
1,50 € en moyenne, quoi, on va dire. 1,50 € pour combien d'heures?
8 heures par jour.
8 heures? 8 heures, vraiment, on nous a dit beaucoup plus que ça.
Non, c'est 8 heures.
Et est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce que les travailleurs ont pu s'organiser ou...
Non, il n'y a pas de syndicat.
Et pourquoi?
Ils n'ont pas besoin d'avoir un syndicat.
Et pourquoi ils n'ont pas besoin d'avoir un syndicat?
Parce
que chacun travaille, chacun gagne bien sa vie, donc ils n'ont pas besoin de syndicat.
Dis-nous pourquoi c'est fermé. Qu'est-ce que les entrepreneurs, qu'est-ce que les patrons ont à cacher aux journalistes?
Il n'y a rien à cacher, mais il y a très peu de bateaux. Bon, il y a du travail qui continue à l'intérieur, mais il y a très peu de bateaux.
Non, mais parce que si les conditions de sécurité, comme tu le dis, sont respectées, si les salaires sont bons, même s'il y a peu de bateaux, je ne vois pas pourquoi on interdit aux gens de circuler, d'aller voir, d'enquêter, de poser des questions. Et pourquoi on a peur comme ça, là? T'as peur, vite, 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 il faut qu'on remonte dans le... On dirait que c'est une situation de guerre.
Je ne veux pas m'exprimer là-dessus, pardon, mais je pense que GMB, le Gujarat Maritime Board, pourra vous expliquer. Il faut y aller.
Et juste avant de partir, dis-nous, c'est quoi ce grand nuage noir là qu'on voit à l'horizon et qui maintenant, alors depuis, qui part de la plage derrière ce bâtiment et qui s'éloigne jusqu'à la perte de vue?
Parce qu'il y a eu un cas d'incendie dans un bateau.
Aujourd'hui, là, sur le chantier?
Oui.
Quel genre d'incendie?
Les workers sont en train de travailler.
Il y avait des ouvriers qui travaillaient dedans, sur le bateau.
Il y a eu un incendie sur un bateau, il y avait des ouvriers dedans qui travaillaient.
Oui, quand il y a eu de l'incendie,
ils travaillaient dedans, mais ils avaient assez de temps pour descendre du bateau.
Il y a eu des blessés?
Non.
Non, ils ont été sauvés.
Non. C'est un mensonge. Ils n'ont pas été sauvés. On apprendra dans les heures qui viennent, mais très probablement, ce monsieur le sait déjà, qu'il y a au moins 4 morts. Il vient d'avoir une explosion à bord d'un des navires en démolition. Et c'est très fréquent. C'est quelque chose de très fréquent. C'est un peu moins fréquent aujourd'hui, mais c'est général, c'est-à-dire que ces navires souvent contiennent des poches de gaz, de carburant qui restent à bord, et quand le découpeur arrive avec son chalumeau, c'est un batiwala, ça s'appelle, c'est ce poste de découpeur, et ben ça explose, et là c'est ce qui s'est passé. Il y a un navire qui a pris feu, et il y a eu finalement entre 4 et 8 victimes, on ne sait pas exactement, 4 ou 8 morts, on ne sait pas exactement, on ne sait toujours pas très précisément, et puis un certain nombre de blessés, on ne sait pas non plus. Ce qui fait dire à ce shipbreaker qu'il n'y a pas de mort, c'est que c'est quand même embarrassant ces histoires de mort, parce que dans ces cas-là, les autorités astreignent à la fermeture du chantier. Et ça panique les entrepreneurs, ça panique les patrons, la fermeture du chantier. Pourquoi ? Parce que ils essayent de découper, de démolir leur navire le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que ils achètent les navires, les épaves avec des prêts consentis par des banques et qui évidemment leur font payer des intérêts, des agios et à la journée. Donc il faut aller le plus vite possible au détriment évidemment de la sécurité, des horaires, des normes de travail. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de droit du travail en Inde. Il y en a évidemment, mais c'est très 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 loin d'être respecté. Donc on est là vraiment. On a réussi à venir jusque-là, mais il faut vite repartir.
C'est impressionnant, n'empêche, ce bateau-là qu'on voit devant nous.
Oui, on voit l'incendie là-bas. Hein. On voit l'incendie à l'horizon, on voit les chantiers, on voit les grues, on voit quelques morceaux de navire, et puis des petites maisons basses, des petits... On croise de temps en temps des charrettes tirées par ces grosses motos-là. Ou par des tracteurs, des charrettes pleines de tuyaux, de plomb, on dirait des boyaux. C'est tous les extraits, tout ce qui sort de ces navires. C'est vraiment un dépeçage, comme un énorme animal qu'on dépecerait. Et là, c'est l'enclos, hein. Tout ça, c'est l'enclos du chantier. Et on n'a pas le droit d'y entrer. Il y a un checkpoint qui ferme le truc. Le fameux checkpoint infranchissable. Comment on peut faire pour rencontrer quelques ouvriers qui pourraient nous dire comment ils travaillent?
On va les appeler. Allez. Peut-être il faudra envoyer la voiture dedans.
Merci de nous aider en tout cas. Là, il y a un chantier, il y a un petit chantier.
Au milieu des enfants qui sont à côté.
Des enfants qui jouent, qui rigolent, etc. Il y a des gros sacs. Et là, on est en train de... Là, c'est de l'amiante. Là, c'est une petite carrière d'amiante avec des sacs.
Il
y a un petit pourcentage de l'amiante.
C'est un petit pourcentage de l'amiante qui est extraite des bateaux qui est là.
Ah. Oui.
Mais ça, tu crois que c'est dangereux, ça, de cette amiante qui est là? Il y a vraiment une carrière, il y a des sacs pleins d'amiante. Il y a...
Non, c'est pas dangereux.
D'après toi, c'est pas dangereux?
Non, pas du tout.
Et il y a beaucoup d'amiante comme ça?
Non, il y a très peu d'amiante dans les bateaux normalement.
Ça, c'est assez extraordinaire quand même. Hein. Toute la question, c'est la question de l'amiante. Et on trouve cette petite ferme. C'est un stock d'amiante, de sacs d'amiante pilée. Je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas du tout où ça va ensuite. Oh, bon, on s'inquiète bien pour rien. On est bien ce genre de Greenpeace. On est des Greenpeace hein, pour s'inquiéter de ça. Ça n'inquiète absolument personne dans ce coin. Où ça va, cette amiante? Eh ben, ça va dans l'industrie, dans la fabrication. En Inde, il n'y a aucune loi contre l'amiante. On utilise abondamment l'amiante pour une quantité de fabrication. Et il y a des mines d'amiante en Inde. Il y a au moins 3 mines d'amiante qui existent pas très loin d'où nous sommes d'ailleurs, et qui emploie entre 10 et 15 000 travailleurs dans ces mines d'amiante et on l'utilise, on en importe du Russie, on en importe du Canada et il n'y a aucune espèce de voilà de loi contre l'amiante. C'est pas un problème pour les autorités de l'Inde et c'est donc dire si nos craintes et notre inquiétude étonne et surprend.
Sur ces gardes et regarder dans tous les sens. Marchand de câbles électriques. C'est vraiment comme un bazar, c'est réparti par activité. D'autres endroits, c'est des compresseurs, d'autres c'est des grosses machines-outils. Là, c'est l'électricité. Là-bas, en face, il y a des câbles. Regarde, là, c'est des casques et des petites pièces détachées, des casques d'insonorisation, des casques de travailleurs. Une espèce d'indicateur de je sais pas quoi, un cadran à aiguille, un petit haut-parleur.
Mais toute la rue, c'est ça. Hein. Toute cette rue, c'est les débris, c'est les miettes des bateaux. C'est-à-dire que il faut imaginer, t'as ces grosses bêtes qui arrivent d'un côté. C'est extraordinaire, hein, parce que des navires de 250 mètres, 300 mètres de long, parfois, qui arrivent là, c'est la marée haute qui les pousse. Alors, des fois, on les tire avec des câbles, des fois avec des remorqueurs, et ils viennent s'échouer doucement. Comme ça, ces monstres viennent s'échouer. Et à partir de là, on va dépecer les navires jusqu'à la dernière miette. Il n'y a rien qui restera en acier, en câble, en tout ce qui est à bord d'un navire, c'est-à-dire une ville entière, hein, va être démonté, dépecé jusqu'au dernier petit clou, jusqu'à la dernière poignée de porte, jusqu'au dernier câble.
Et là, c'est des petits interrupteurs. Et...
Voilà. Et après, c'est regroupé boutique par boutique. Et ici, les gars vendent. Là, c'est plutôt le matériel électrique. Il y a des ampoules, là, des ampoules géantes, des projecteurs. Marchand de débris, marchand de miettes, quoi. C'est des marchands de miettes. Il y a une autre boutique, là. Bah, les gars, ils vendent des choses peintes. Je ne sais pas si c'est...
Attention. Ah oui, là, je n'avais pas regardé du bon côté. Il y a l'énorme camion. C'est pas... Et là, ils arrivent d'en face. Là. On ne sait jamais par où il faut regarder. Ah, regarde, là, il y a une bouée qui est posée là, à côté d'un marchand de câbles électriques de seconde main. Et là, c'est une bouée d'un bateau qui était immatriculé à Jeddah.
Voilà, une charrette qui amène des tas de pièces récupérées sur les bateaux. Des isolateurs. Ça, c'est leur calme, hein, les sons qu'on entend, là, les klaxons, les tchouk-tchouk, les moteurs, tout le bazar. Ça, c'est vraiment l'heure la plus calme de la journée. Voilà, on est à Bhavnagar, vous avez compris, dans ces quartiers, dans cette partie de la ville où on vend et tout ce qu'on récupère à bord de ces navires, ça va très très loin tout ce qu'on récupère. Hein, on récupère absolument tout et on vend absolument tout ce qu'on récupère. Et après tout, c'est formidable. On se dit, ben voilà, du recyclage, réutilisation, activité, tout ça est très très bien. Sauf évidemment le non-respect des conditions de travail et aussi les atteintes à l'environnement. Et pourquoi ça? L'argument, évidemment, tout de suite, tout près, dans la bouche de ceux qui sont des commerçants, comme des patrons, comme de leurs organisations, c'est la concurrence. On peut pas, on regrette beaucoup, mais on ne peut pas avoir d'autres conditions de travail, d'autres conditions vis-à-vis de l'environnement à cause de la concurrence du Bangladesh, on ira au Bangladesh, du Pakistan, de la Chine, etc. C'est l'éternelle histoire de la concurrence. Sauf qu'on est dans une époque de libre-échange, donc d'ouverture à la concurrence, et voilà, qui paye les pots cassés de la concurrence? C'est évidemment, tout ça se fait sur le dos des travailleurs de ces chantiers qui viennent des états les plus pauvres de l'Inde, comme le Bihar, et d'autres états comme l'Uttar Pradesh, etc., qui sont des états extrêmement, extrêmement pauvres, où il y a des cas de assez, assez fréquents de famine ou presque, et donc les jeunes gens viennent de ces régions. Ils sont recrutés très souvent par des émissaires de ces employeurs, de ces shipbreakers, et il y a des gens qu'on appelle des recruteurs, disons, qui viennent dans ces états, dans ces villages retirés, et qui achètent les travailleurs. Comment ? Eh bien, en versant une somme importante à leur famille et en les emmenant avec eux jusqu'au chantier. Donc, voilà des gens qui sont des hommes jeunes qui sont endettés, et il faudra qu'ils remboursent ces sommes. Et bien sûr, donc, ça fait une main-d'œuvre absolument asservie, totalement asservie. Pas de syndicat, bien évidemment, ça c'est rigoureusement pourchassé, rigoureusement interdit. Donc c'est des conditions assez terribles de travail. Mais nous sommes nous ne sommes pas bienvenus du tout, puisque nous faisons penser, d'abord nous on parle français, un certain nombre s'en rendent compte, et puis l'hostilité totale Greenpeace dans cette partie de la ville, voilà l'ennemi.
Alang,
Cable, Poland Company, country.
De Pologne, c'est des câbles, des gros câbles électriques qui viennent d'un navire polonais. Et qui achète ça?
Les patrons des grandes usines.
Pour récupérer.
Pourquoi vous posez des questions?
Parce qu'on fait une enquête sur les conséquences du Clémenceau.
L'effet va être très mauvais sur mon business.
Là, c'est formidable votre boutique, parce que c'était. Vous vendez tout le matériel électrique, l'éclairage, les ampoules, parfois des très très gros projecteurs comme celui-là, parfois des ampoules plus petites, tout ce qui vient des bateaux.
Ah, c'est pour madame.
Oui, tout vient des bateaux.
Et qui vous achète ça?
Madame, en ligne, madame.
Il y a des gens qui viennent partout du pays. Parfois, on les réutilise tout ça dans les bateaux.
Dans d'autres bateaux.
Et parfois aussi dans les usines.
Depuis combien de temps vous êtes installé ici?
20 ans.
Ah mais tout le monde pleure, tout le monde nous dit que ça s'écroule, qu'il n'y a plus de travail, que...
Ça allait bien il y a peu de temps, mais maintenant c'est presque fermé.
Ah bon, donc qu'est-ce que vous allez faire alors?
On va voir.
Bon d'accord, bon, on va parler. Voilà, on va parler avec les autres. Qui veut nous parler un petit peu? C'est des commerçants? Vous êtes des commerçants?
Ah ouais, ils ne peuvent pas parler.
Pourquoi?
Parce que c'est interdit de parler avec les gens.
Ah, qui vous a interdit?
D'eau. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal là. Dis donc. Et ben voilà, on a réussi à se mettre dans un petit coin comme ça. Oups. Ok.
Toi, ça fait très longtemps que tu travailles sur des chantiers.
Et ce n'est pas notre nom qui ne doit pas être
ici. Non, ce n'est pas votre
nom. Il ne
veut pas que son prénom soit ici.
Mais on sait, moi, je ne sais même pas ton prénom.
Non, ce n'est pas votre nom qui ne doit pas.
आप तो जानते होंगे कि हम जो हैं से समझे कि हम यहां तो पूरी परिवार के
सहित parce que j'habite ici avec ma famille.
हम बहुत अभी अपने आप गरीबते में हैं.
Et je suis pauvre.
Comment t'as commencé? D'où tu venais?
Mais Patna c'est là.
Je viens de Patna. C'est la capitale de l'état de Bihar.
Et pourquoi tu es venu ici travailler?
Patna mais यहां से काम करने के लिए हम पटना से जो है से वहां पे हमारी कोई धंधा वैसा नहीं था. इसकी वजह से मैं यहां पे आया.
Parce qu'à Patna je n'avais pas de travail.
Ship mein hum 16 saal se kaam kar rahe
hain. Depuis 16 ans je travaille sur les bateaux.
Alors, en quoi ça consiste le travail sur les bateaux? Qu'est-ce que tu as fait au début?
Shuru hum jab kaam chalu kiya tha usme hum batti ke sath mein helferi ke kaam batti ke sath mein rehte the.
Je m'occupais du découpage du fer.
Ça c'est un boulot dangereux, non?
Khatarnak kaam to tha.
Oui, c'était dangereux.
Qu'est-ce que vous aviez comme protection? Vous avez des masques? Vous...
Non, ye sab kuch nahi tha mere paas.
Non, rien du tout.
Vous aviez des vêtements de protection?
बस अपना ही कपड़ा पहन करके काम करता था मैं.
Non, il y avait pas de vêtements de protection. Je portais les habits de tous les jours.
Et pour quel salaire?
उस समय मेरे को 40 रुपया मिलता था.
À l'époque, je gagnais 40 rupees.
अब 100 रुपया मिलता है.
Aujourd'hui, c'est 100 rupees par jour. À peu près 2 euros.
À peu près 2 euros par jour. Mais toi tu gagnes 2 euros par jour après 17 ans de travail. Est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce que vous avez des syndicats?
Union mein aapka sangathan hai yahan pe kuch?
Nahi.
Non.
Est-ce qu'il y a il y a eu des tentatives de création de syndicats?
Aisa pratne hua hai.
Oui, il y a eu des tentatives.
Aisa pratne hua hai, lekin uski pratne chala nahi yahan. Koi mahatma
nahi. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas les gens n'ont pas écouté.
Tu te souviens de ceux qui ont essayé de créer des syndicats? Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Wo log paratan kar kar ke kitne ploton band karwaye. बंद करने के बाद में उन लोगों को फिर वो प्लॉट के अंदर में काम नहीं मिले. काम नहीं मिलने के कारण वो जो है से यहां सेलंग से फिर वो घर चले गए.
Parce que ceux qui ont essayé de faire des syndicats, eux, ils se sont fait virer et donc ils ont dû partir d'ici.
ऐसे लोगों को तो दो चार को हैं वैसे जानकारी है.
J'en connais quelques-uns.
Alors voilà, malgré tout, il y a toujours du malgré tout, il y a toujours l'homme qu'on pourrait appeler malgré tout. Personne en fait ne veut nous parler, tout le monde veut nous tromper, nous présenter les choses d'une certaine façon, d'une façon fausse. Mais il y a cet homme-là qui nous a suivis, qui marchait de côté, qui a attendu que la nuit soit totalement tombée. Et puis, comme on allait partir, il est venu jusqu'à nous. Et voilà, on a réussi à se cacher, pour tout dire, dans un endroit comme ça, entre sous les arbres, près d'un plan d'eau. Personne ne nous surveille, pense-t-on. Et il parle, il a voulu parler. C'est malgré tout. Alors tout à l'heure on entendait des explosions. C'est quoi ces explosions?
Oh, jahaj mein angar lag gayi hai aur angar lagne ke karan jo uske upar mein jo oxygen hai gas hai wo batla ud ud karke phut raha hai.
Il y a un bateau qui a pris feu et à cause du feu il y a les bouteilles de gaz qui ont explosé.
Wahan pe aaj 6 aadmi mar gaye hain.
Il y a eu 6 morts.
Aujourd'hui, il y a eu 6 morts.
6 aadmi mar gaye hain angar lagne ke karan.
Oui, à cause du feu.
Comment tu sais ça?
मेरे को पता चला वहां से फोन कर कर के हम लोग पूछे थे कि कितना आदमी वहां अपना आदमी भी थे तो अंगार लगा हुआ था.
Parce que je connaissais des gens qui travaillaient là-bas donc j'ai téléphoné.
Ah, c'est pour ça qu'on n'est pas les bienvenus aujourd'hui. Alors déjà qu'on n'est pas les bienvenus en général, mais s'il y a eu 6 morts aujourd'hui, on est encore moins les bienvenus. Aujourd'hui, tu nous dis qu'il y a eu 6 morts dans l'après-midi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des indemnités?
नहीं वैसे उसी के कोई खराब परिणाम नहीं आएगा. उसको जो मर गए वो लोगों को पैसा भी दे गए और उसके जितना दाह संस्कार का सब कुछ होगा वो सबको घर तक उसकी पैसा पहुंचाया जाएगा.
Les patrons vont donner vont verser de l'argent aux familles.
Quelle somme à peu près, t'as une idée?
लगभग जो है से उन लोगों को एक आदमी के पीछे 1 लाख 1.5 लाख रुपया देते हैं.
À peu près 100 000 rupees par personne.
100 000 rupees.
1 लाख रुपया.
Oui, c'est ça. 100 000 rupees.
2 000 euros. Ouais, la vie d'un homme, c'est autour de 2000 euros, c'est-à-dire à peu près 13 000 francs. Un ouvrier casseur de bateau vaut à peu près 13 000 francs. Pourquoi ils ne laissent pas rentrer les journalistes d'après toi?
Parce qu'on pense que si les journalistes vont rentrer dedans, ça va diminuer le travail.
Et donc, le
business se
ferme. Là où on parlait.
Il y avait de très mauvaises personnes qu'il ne fallait pas voir. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous.
Pourquoi c'est des mauvaises personnes?
Parce que les gens ont une situation qui est que les labeurs qui sont en train de se faire, ils ont une réponse qui est 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 une réponse.
Parce qu'ils ont peur que si les ouvriers nous donnent les vraies informations, leur business va fermer.
C'est ça. Mais les vraies informations, c'est quoi finalement? C'est les salaires qui sont ridiculement bas, et puis c'est la sécurité. La vérité, c'est les conditions de travail.
Oui.
Oui, c'est ça.
Toi, t'es un peu plus courageux que les autres, alors.
Himmat to rakhna padega, kyunki himmat nahi rakhenge to hum ship ke andar mein kaam nahi kar sakte.
Il faut du courage, parce que si je suis pas courageux, je peux pas travailler sur les bateaux.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
17-18 saal se hum kaam kar rahe hain.
J'y travaille depuis 17 ans.
आज तक हमारे जैसे समझे कि एक अंगुली भी नहीं कहीं भंगी
मैं जामे यू द ब्लेस्योर
on nous a dit que parmi les ouvriers là qui travaillent sur le chantier de démolition toutes les castes sont mélangées il y a des brahmines il y a des intouchables il y a toutes les castes c'est vrai
सत है
oui tout à fait
सत है ब्राह्मण ज्यादा करके ब्राह्मण है
il y a plus de brahmin
ब्राह्मण ज्यादा हैं क्षत्रिय हैं और ये छोटे भी जात हैं उसमें
La majorité des ouvriers sont des brahmins. Non, ouais, et puis il y a aussi des guerriers, des kshatriyas et aussi des intouchables.
Et tout le monde s'entend ou les distinctions sont entretenues?
Non, il y a une unité entre les ouvriers.
Toi, tu es brahman?
Brahman.
Oui, je suis brahman.
Brahman hai, upadhyay hai.
C'est pour ça que tu nous parles alors.
Isliye aap hamare saath baat kar rahe
hain. Zaruri.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu as déjà pris le bateau dans ta vie?
घूमने फिरने के लिए कहा कि उसके ऊपर में चढ़-चढ़ करके हम पूरे काम करवाए हैं।
Pour travailler mais jamais pour voyager.
Ship के ऊपर हम पूरे काम करवाए हैं। Ship पूरे कटवाए हैं, ship पूरे साफ करवाए हैं, cabin खोलवाए हैं।
Le travail de découpage, de nettoyage tout mais jamais voyager.
En fait, tu es monté sur des épaves quoi.
हां, sur घूमने फिरने वाले ship.
J'ai jamais voyagé sur un bateau.
घूमने फिरने वाले ship पे नहीं चढ़ करके गए हैं कहीं।
Jamais.
Merci à Raju, merci à Mayesh Pandya du Center for Social Justice, merci à Arun Mehta, la centrale syndicale CITU, Rambai Ratod, Jignesh Mehta, Pierre Prakash, Dominique Barry, Annie Thébault Mani et Gopal Krishna de Banasbestos, reporter, montage, Guy Vanctil, traduction, Prit Pandya, à lire le rapport de la FIDH, Fondation Internationale des Droits de l'Homme, les bateaux en fin de vie, le coût humain de la démolition des navires, disponible sur le site www.fidh.org et voir également sur le site labas.org, la-bas.org, des photos de ce reportage. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse, j'y suis. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale montée par Guy Vanctil et Coy Nguyen, assiste de Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est Daniel.mermet@radiofrance.com.